Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la dette publique. À l'ordre du jour ce soir, peut-on croire à l'annulation de la dette ? Il y a 5 jours, 150 économistes de 13 pays d'Europe publiaient simultanément dans un grand nombre de quotidiens du continent un texte demandant l'annulation de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne. La réponse de Christine Lagarde a été immédiate, c'est inenvisageable. Pourtant, en une petite année, bien des opinions en ce domaine ont considérablement bougé. On entend maintenant les députés républicains considérer par exemple que cette dette Covid peut être transformée en dette centenaire. Des économistes proches du gouvernement estiment que les taux d'intérêt sont tellement bas que la dette est gratuite et rapporte même de l'argent aux États. Et certains plaident pour un endettement encore supérieur afin d'investir pour favoriser la reprise. Nous en discutons ce soir avec nos trois invités, Agnès Benassi. Bonsoir Agnès Benassi-Kéré.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Avec nous également Baptiste Bridonneau. Il est en studio avec nous. Baptiste Bridonneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, doctorant au laboratoire Economics de Paris-Nanterre. Vous êtes un des signataires justement de cet appel de 150 économistes européens publié dans le journal Le Monde en France. Et puis Benjamin Lemoine est également avec nous à distance. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales, l'IRISO, à l'Université Paris-Dauphine. Et vous êtes auteur d'un livre important il y a 5 ans qui s'appelait « L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché ». C'était aux éditions de La Découverte. Et puisque je vous parlais de Christine Lagarde, écoutons-la.
Pourquoi c'est pas possible ? Parce que c'est illégal. Les pays européens, quand ils ont décidé de faire l'Europe et puis de faire l'euro, ont convenu d'un traité. Et le traité, c'est la volonté légitime de chacun des pays de se mettre ensemble. C'est un contrat qu'ils ont passé et qui a été conclu au plus haut niveau politique dans les 19 États membres de la zone euro et qui a vocation à s'appliquer au-delà lorsque d'autres pays rejoindront la zone euro. Or, ce traité dit quoi ? Il dit qu'on ne peut pas faire tourner la planche à billets pour financer la dépense des États. Or, annuler la dette publique, ça correspondrait exactement à ce qui est interdit par le traité, précisément l'article 123 du traité. Sauf qu'entre-temps, on a remis en cause la signature française. On a probablement atteint la confiance des investisseurs dans
donc
le risque
France,
français.
Ça lui coûtera plus cher de réinvestir
et dans la
de
France,
se refinancer.
Pour la France, ça lui coûtera infiniment plus cher si elle peut se refinancer.
Voilà, c'était la réaction de Christine Lagarde dans cette interview de BFM Télé. Donc, la présidente de la BCE disait que c'était absolument impossible, ce qui va à l'encontre de votre diagnostic à vous, Baptiste Bridonneau.
Oui, exactement. La première chose, c'est que Christine Lagarde dit que la Banque centrale n'a pas le droit de faire tourner la planche à billets. Or, faire tourner la planche à billets, c'est ce que la BCE fait depuis 2010. En rachetant de la dette publique. Alors en 2010, c'était des petits montants. Et à partir de 2015, ça a été des montants de plus en plus importants. Et alors en 2020, c'était carrément l'explosion. Donc en fait, ce financement monétaire des États, la Banque centrale le fait déjà. L'annulation de la dette, ça ne créerait pas d'argent supplémentaire. Cet argent, il a déjà été donné finalement. Et donc l'annulation, ce ne serait juste que laisser cette monnaie qui a déjà été introduite dans l'économie et seulement ne jamais demander aux États de la rembourser. Alors il y a plein d'autres choses à dire hein, sur l'allocution de Christine Lagarde. Elle dit c'est interdit par les traités. Mais depuis quand ne peut-on pas changer un traité pendant toute la...
Enfin, changer un traité européen, c'est compliqué.
Tout. Ah oui, mais on l'a fait pour les règles budgétaires. Quand il s'agissait de changer les règles du budget, là, on était capable de se mettre d'accord pour modifier les règles budgétaires. Pourquoi aujourd'hui, on ne serait pas capable de se mettre d'accord pour modifier les règles monétaires ? Ça date quand même du début des années 90. Moi, c'est une période sur laquelle que j'ai même pas connue, j'ai même pas pu.
Vous êtes un peu jeune pour ça.
donner mon accord pour le traité de Maastricht. Et aujourd'hui, toute l'organisation monétaire se fonde sur un traité qui nous paraît si éloigné.
Oui, alors justement, Agnès Benassi-Kéré, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le jeune Baptiste Bridonneau et ses diagnostics, justement, sur la possibilité ou non de changer les traités.
Alors d'abord, sur le premier point, les achats sur le marché par la Banque Centrale Européenne sont parfaitement légaux. C'est passé par la Cour européenne de justice qui a statué sur le sujet, puisque elle avait, la légalité avait été mise en doute par des juristes allemands à deux reprises, et ça a été considéré comme légal. Je rappelle que ces achats, ils ont lieu sur le marché secondaire, et donc ça n'est pas une avance directe de la Banque Centrale Européenne aux États, qui est en effet interdite par le traité. Alors oui, c'est vrai qu'on peut changer un traité. La question, c'est où est-ce qu'on met notre énergie ? Et moi, ce que je conteste, c'est changer un traité pour ça, alors que ça ne servirait strictement à rien. Parce que ce qui est important, c'est pas la dette que détient la Banque Centrale, c'est la dette, justement, que ne détient pas la Banque Centrale.
C'est-à-dire la dette du marché, la dette de marché, vous voulez dire.
La dette qui est sur le marché, voilà, c'est ça. C'est celle-là qui est importante. Annuler la dette qui est dans le bilan, il faut quand même le rappeler, la Banque Centrale nous appartient. Et donc, en fait, les intérêts que l'État paye à la Banque Centrale lui sont rétrocédés sous forme de dividendes. Donc, on peut annuler les deux flux, ça ne sert strictement à rien. Ça annihile la capacité plus tard, un jour, de la Banque Centrale à faire son travail de lutter contre une éventuelle résurgence de l'inflation. Eh bien, malin qui pourrait dire quelle est l'inflation en 2030, quelle sera l'inflation en 2030, en 2040, on est en train de parler de périodes futures, on en sait très rigoureusement rien. Donc, casser l'outil, la politique monétaire, juste pour faire quelque chose qui ne sert strictement à rien, et énerver nos voisins européens et affoler les marchés, je trouve que c'est vraiment, c'est le bilan coût-bénéfice me paraît absolument désastreux.
Baptiste Bridonneau, juste un mot, la répartition de cette dette, on a dit il y a la dette qui appartient à des acteurs privés, la dette de marché, et puis la dette de qui est détenue par la BCE, c'est combien ?
Pour une moyenne pour la zone euro, 25 à 30% du volume de dette de chaque pays est détenu par la Banque centrale.
Donc, et le reste par des acteurs privés.
Par des acteurs privés.
Oui, alors nous sommes aussi avec vous, Benjamin Lemoine. Vous avez travaillé en tant que sociologue, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans votre travail qui a donné lieu à un magnifique bouquin qui s'appelait L'ordre de la dette. Vous avez travaillé sur cette question de la répartition, justement, mais pas simplement cette question de la répartition, cette question de l'imaginaire qui, d'une certaine façon, change au fur et à mesure des évolutions sociales, des évolutions culturelles, autour de la notion de dette. Ça n'était pas la même chose dans les années 60, ça n'était pas la même chose dans les années 70, et évidemment, après cette crise de la Covid, ça ne sera pas la même chose qu'il y a encore un ou deux ans. Il y a encore un ou deux ans, on criait des cris d'orfraie pour pouvoir justement dire qu'il ne fallait pas dépasser 100% de notre PIB pour la dette, et puis aujourd'hui on est à 122 ou 124% ou quelque chose comme ça.
Oui, absolument. Le débat évolue et je pense qu'il faut quand même reconnaître que un des mérites de cette proposition, dans laquelle on n'est pas obligé de croire religieusement, puisque elle-même veut bousculer les croyances établies, un des mérites de cette proposition est de déplacer largement le débat sur la dette, qui, à partir de 2005, et pour les plus anciens d'entre nous, se souviendront, la commission Pébro, qui focalisait sur des problèmes strictement budgétaires pour expliquer et débattre du problème de la dette. Un des mérites, je pense, de la proposition sur l'annulation et de déplacer le débat sur la question de la monnaie et notamment de mettre au centre du débat non pas la légalité de l'action de la BCE mais la question de son mandat. Si Agnès Benassi-Kerry a raison de rappeler que les rachats de la BCE sont parfaitement légaux, néanmoins le mandat initial de cette institution indépendante qui devait se cantonner initialement à la stabilité des prix a été lui largement outrepassé. Et ce pouvoir très important qu'obtient aujourd'hui la BCE, il mérite un débat, il mérite de s'interroger plus structurellement sur à la fois le rôle de cette institution, sa connexion à la décision politique et plus largement à la dépendance de nos États vis-à-vis des marchés financiers. Puisque vous avez posé cette question de la répartition entre les acteurs financiers et les acteurs non financiers, les créanciers institutionnels, il me semble qu'une des limites de la proposition de l'annulation est que une fois cette annulation obtenue, elle mise sur le fait que les États auront une sorte de bouffée d'air et pourront aller réemprunter sur les marchés financiers, en faisant le pari que ces acteurs des marchés financiers auront adhéré à cette décision de l'annulation, auront partagé d'une certaine façon les croyances des porteurs de l'annulation. Et là, je pense qu'il y a quand même un risque non négligeable que les croyances des acteurs des marchés financiers ne sont pas alignées avec ces meilleures intentions du monde de ceux qui proposent l'annulation. Et l'histoire nous montre au contraire que la construction européenne et notamment l'indépendance de la Banque centrale se sont alignées sur les croyances des marchés financiers qui souhaitaient précisément une institution indépendante du pouvoir politique. Donc je pense que on voit que ça évolue. D'ailleurs, les promoteurs de cette proposition d'annulation ne disent plus que ça ne léserait personne. On voit bien que ça lèse des croyances fondamentales et ça lèse aussi un alignement d'intérêts entre certaines institutions et certains acteurs des marchés financiers.
Agnès Benassi-Kéré, c'est une question de foi. On a l'impression effectivement que ça bouge, puisque effectivement, après un an de crise de la Covid, eh bien, certaines des opinions, comme je le disais en ouverture de cette émission, ont peut-être légèrement changé, mais que néanmoins, les fondamentaux, comme on dit, sont un peu toujours les mêmes.
Alors, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Le mandat de la BCE n'a pas été outrepassé. Hein. L'objectif d'inflation n'est pas atteint. Donc, c'est pour ça que la Banque centrale s'est lancée dans ces politiques dites non conventionnelles pour essayer de faire remonter le taux d'inflation. Il se trouve qu'aujourd'hui, elle a besoin d'un soutien budgétaire. Donc les intérêts convergent, si vous voulez, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Mais la Banque centrale reste dans son mandat. Je pense que c'est une chance, en fait, en sortie de crise, que la Banque centrale européenne détienne autant de dettes publiques. Ça veut dire que ça va être un acteur majeur pour la sortie de crise. Et on a de la chance parce qu'elle a justement un objectif qui est la stabilité macroéconomique de la zone euro et non pas un objectif de profit immédiat. Et donc, elle va pouvoir se retirer sur la pointe des pieds en surveillant les marchés comme le lait sur le feu. Et je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'inquiétude là-dessus. Elle a plusieurs instruments. Elle a déjà réfléchi de longue date à comment faire pour défaire progressivement ce qu'elle aura fait pendant la crise. Et si l'économie rebondit bien, l'inflation devrait rebondir bien, et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Les marchés auront un appétit pour cette dette publique. La seule difficulté qui pourrait
parce que l'idée, c'est l'idée
de l'augmentation de l'inflation.
Parce que, excusez-moi, Agnès Benassi-Kéré, l'idée, c'est donc que progressivement, selon vous, la BCE se déchargerait de cette dette sur les marchés. C'est-à-dire que l'idée qu'elle possède 25 à 30% de la dette publique par l'intermédiaire justement de tout ce qui s'est passé pendant un an, eh bien, lui permettrait progressivement de se défaire de cette dette et de la confier au marché. Il n'y a pas d'autre solution que de confier cette dette au marché, selon vous, Agnès Benassi-Kéré ? Je ne sais pas.
Ah ben, c'est-à-dire que tout dépend de comment évoluera l'inflation, justement. Ouais. Si l'inflation ne redémarre pas, bon, ben, c'est un peu comme les déchets nucléaires, hein, ça reste dans le bilan de la Banque centrale, et on n'en parle pas tant que l'inflation ne repart pas. Et donc, c'est pour moi, c'est un peu aussi une garantie. On sait que ces montants, ces dettes ne ressortiront pas. C'est-à-dire que si l'inflation ne repart pas, alors la BCE sera obligée de racheter de la dette nouvelle quand elle se fera rembourser la dette ancienne. Hein, c'est qu'on a fait rouler la dette. Donc et c'est seulement si l'inflation repart que la BCE devra se poser la question de progressivement dégonfler son bilan et donc revendre sur le marché en effet ses dettes. Mais si l'inflation repart, ça veut dire que l'activité est repartie et donc il y aura des investisseurs pour racheter cette dette puisque son taux d'intérêt aura augmenté en plus et donc ce sera donc des places, ça redeviendra, on retrouvera le monde perdu des taux d'intérêt positifs. Et je crois qu'aujourd'hui, l'espèce de confusion qu'il y a dans le débat, c'est lié beaucoup au fait qu'on est en pleine crise et que l'inflation est extrêmement faible, que la croissance est extrêmement faible et les taux d'intérêt sont extrêmement bas et même négatifs sur une grande partie pour beaucoup de maturité. Et donc, ça, effectivement, les gens payent pour détenir la dette publique et ça nous perturbe. Je pense que ça nous perturbe beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a ces débats qui sont un peu confus. Donc il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village.
Ouais, alors justement, est-ce que vous pensez que ces débats sont confus?
Non, je pense que justement, il n'y a absolument pas de confusion. Il y a juste une certaine partie des économistes qui ont une manière différente de voir les choses. Là, avec les propos que vous tenez, Madame Benassi-Kéré, on voit une contradiction de la manière dont vous percevez les choses. Vous nous dites d'un côté qu'il faut agréger le bilan du Trésor et le bilan de la Banque centrale. Autrement dit, que la dette que le Trésor a auprès de la Banque centrale, c'est une créance que la Banque centrale a auprès de l'État. Et que du coup, si on annule l'un, on annule l'autre, et que c'est un jeu à somme nulle. Sauf qu'au même moment, vous dites quoi ? Vous dites que potentiellement, la Banque centrale peut se séparer des dettes publiques qu'elle détient. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dette publique peut être à nouveau détenue par des créanciers privés. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction interne à votre raisonnement. Si on annule aujourd'hui, pour le coup, cette dette ne pourra jamais être détenue par des créanciers privés demain. Alors que si on ne l'annule pas, il peut se passer exactement ce que vous venez de dire aujourd'hui.
Oui.
Alors, vous pouvez dire, si on annule les titres publics... Attendez, juste deux secondes, s'il vous plaît, madame. Si vous dites qu'on ne peut pas annuler les titres publics et que demain, on ne sera pas capable de lutter contre l'inflation, il y a beaucoup d'autres manières de lutter contre l'inflation. Il suffit de regarder avec une perspective historique large. Vous pouvez faire de l'encadrement de crédit. Vous pouvez augmenter vos réserves obligatoires non rémunérées. Il y a d'autres manières que de vendre des titres publics pour lutter contre l'inflation.
Agnès Benassi-Kéré.
Alors, comment est-ce que la Banque centrale achète la dette publique ? La Banque centrale va voir les banques et leur dit « Est-ce que vous voulez me vendre de la dette publique ?» Donc, la Banque centrale, mettons, choisit une banque, achète auprès de BNP, mettons, 100. Et donc, comment est-ce qu'elle va payer ? Elle va créditer le compte de la BNP à la Banque centrale, parce que la Banque centrale, c'est la banque des banques. Donc la BNP a un compte à la Banque centrale, comme vous avez peut-être un compte à la BNP. Donc ce compte, en temps normal, est rémunéré avec un taux d'intérêt. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est nul, ce qui explique pourquoi aussi on n'arrive pas à comprendre la différence, parce que tout est à zéro, si vous voulez. Donc tous les taux d'intérêt sont à zéro, et donc on voit pas la différence entre les choses. Mais un jour, le taux d'intérêt redeviendra positif. Et la Banque centrale devra donc payer un intérêt à, mettons, BNP. Alors, normalement, elle devrait utiliser les actifs qu'elle a dans son portefeuille pour financer ses intérêts. Mais s'ils ont été annulés, ils n'existent plus. Donc, comment faire ? Alors, les partisans de l'annulation disent, pas de problème, elle n'a qu'à, d'un coup de crayon, créer la monnaie pour rémunérer BNP. Le problème, c'est que si elle fait ça, elle crée de la monnaie encore. Or, justement, elle veut lutter contre l'inflation. Et donc, il y a une contradiction. Ou alors, elle va réduire encore ses fonds propres, qui sont déjà négatifs puisqu'elle a annulé la dette. Enfin, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette publique, que vous l'annuliez ou que vous l'annuliez pas, elle existe. Elle est, ou qu'elle soit dans le marché, elle existe parce que, pourquoi? Parce que c'est la contrepartie. C'est la monnaie qui est créée par la Banque centrale, c'est une forme de dette, si vous voulez.
Madame, juste...
Et cette dette, elle peut même porter un intérêt.
Brièvement, Baptiste Rubin, je redonne la parole.
J'avais parlé d'augmentation des réserves obligatoires non rémunérées. Donc, vous n'avez pas à verser de taux d'intérêt dessus.
Mais alors, qui est-ce qui... Est... Les banques n'ont pas... donc, vous avez... Je pense qu'en fait, c'est ça fondamentalement. C'est que je pense que les gens qui sont pour l'annulation, ils ont une vision un peu répressive de la monnaie. On va forcer les banques à détenir des réserves non rémunérées. On va forcer les gens à détenir des billets qui ne portent pas d'intérêt. Et en effet, ce serait un avantage, parce que ça, s'il n'y a jamais d'intérêt, qu'on vous force à détenir de la dette qui porte un zéro intérêt, mais à ce moment-là, il faut quand même le dire ouvertement. C'est-à-dire qu'il faut dire aux ménages, ah oui, la solution, c'est que on vous force à détenir de la dette qui porte un taux d'intérêt de zéro, même quand l'inflation sera à 5%.
Benjamin Lemoine, est-ce que vous pouvez trancher cette discussion entre économistes dans laquelle j'ai du mal à me repérer moi-même, d'ailleurs? Parce qu'effectivement, il faut avoir une sérieuse science économique pour pouvoir comprendre ce que nous explique d'un côté Agnès Benassi-Kéré et de l'autre côté Baptiste Bridonneau. Benjamin Lemoine.
Bon, pour détechniciser, je pense quand même qu'il y a un problème de l'autre côté à se satisfaire du statu quo, d'une certaine manière.
De l'autre côté, vous imaginez, c'est Agnès Benassi-Kéré, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, oui, absolument, parce que Agnès Benassi-Kéré m'a répondu que le mandat n'était pas outrepassé, mais je pense qu'elle aura du mal à convaincre les auditeurs que le rôle de la BCE n'a pas évolué depuis la dernière crise financière et depuis la pandémie. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne assume de manière à demi-mot, sur le bout des lèvres, elle assume d'être prêteuse en dernier ressort des États et d'assouplir le crédit à la fois pour les banques, mais aussi pour les États. Et c'est très nouveau. C'est c'est quelque chose qui change littéralement la donne dans la configuration actuelle. Donc je pense que pourquoi ne pas se satisfaire du statu quo, c'est aussi l'idée que l'épargne serait surabondante, que la demande de titres de dette est constante et qu'il n'y a aucune inquiétude. Je crois que ce que cherchent ceux qui promeuvent l'annulation, c'est à sortir d'une potentielle dépendance vis-à-vis des acteurs de marché financier et de ne plus rester enfermé dans une vision strictement budgétaire, hein, où on cherche à refaire l'austérité sur les comptes publics vis-à-vis de la dette publique. Et pour cela, leur proposition, eh bien, c'est de couper court dès maintenant en brisant en quelque sorte ce levier potentiel de la BCE. Pourquoi ça pose problème aussi ? C'est que ça donne d'autant plus de pouvoir discrétionnaire à la BCE. Et c'est pour ça que j'insistais vraiment sur cette question du mandat. Il est assez discutable en démocratie qu'une institution telle que la BCE, indépendante du pouvoir politique, bénéficie d'autant de pouvoir et de capacité d'agir bénéfiquement pour les sociétés ou de capacité de nuisance. Et je pense que notamment l'idée de caper les spreads, alors il y a eu, pour vous le dire...
Voilà, attendez, caper les spreads, il faut traduire.
Attendez, c'est moins compliqué que ce qui a été dit tout à l'heure. Ça veut dire plafonner les écarts de taux entre les différents États de la zone euro. En gros, éviter une spéculation sur la dette italienne ou la dette espagnole.
Comme ça a pu être fait au moment de la dette grecque dans les années 2000.
Absolument, je veux dire, la dette grecque, c'est le trauma. Ça doit être le trauma pour toute politique alternative, progressiste, qui refuse l'austérité. Pourquoi ? On a vu pendant la crise grecque que la BCE n'était absolument pas coopérative avec l'État grec et qu'au contraire, en coupant le robinet des liquidités de refinancement pour les banques, elle a enfoncé la Grèce et cherché à passer un plan d'ajustement structurel par le levier de la Troïka. Donc si vous voulez, il y a une double méfiance à avoir. À la fois une méfiance vis-à-vis de l'excès de pouvoir de la BCE en dehors de tout contrôle démocratique et politique, et de l'autre, un excès de dépendance vis-à-vis des marchés de capitaux. C'est pour ça que je pense que l'histoire peut nous apporter des éléments. Agnès Benassi-Kéré parlait de l'emprunt forcé, en quelque sorte, de la façon dont certaines banques pouvaient être forcées à détenir de la dette sans rémunération, à des taux d'intérêt zéro.
Vous l'expliquez dans votre livre, ça a existé.
Absolument.
Et il n'y a pas si longtemps que ça.
Et c'était un mode de régulation normale, routinier, gestion de l'allocation du crédit dans l'économie et en même temps de financement des États. Ça a été critiqué, et là Agnès Benassi-Kéré, je pense, aurait rebondi là-dessus, ça a été critiqué comme un instrument potentiellement inflationniste. Néanmoins, lorsqu'on regarde les archives, le moment où ce système est démantelé d'emprunt forcé, qui permettait au Trésor d'avoir un droit de regard sur ce que faisaient les banques de leur...
D'abord dans les années 70 du XXe siècle et ensuite dans les années 80 avec Pierre Bérégou, c'est bien cela ?
Alors, c'est surtout dans les années 60 avec Michel Debré et Jean-Yves Abrère au ministère des Finances qui vont mettre fin à ce plancher de détention du bon du Trésor. Mais alors, deux éléments. Ça a été critiqué comme inflationniste, alors que dans les années 60, l'inflation n'est pas l'inflation à deux chiffres que l'on va connaître dans les années 70. Et puis, il y avait à la fois, quand on regarde des archives, des plaidoyers de fait du secteur bancaire, considérant que l'État entravait de manière trop importante les banques dans leurs décisions d'allocation du crédit. Mais on pourrait aujourd'hui revisiter les bénéfices de certaines de ces propositions. Pourquoi ? Puisque l'inflation, elle est problématique pour certaines catégories sociales, pas pour toutes. Elle dépend des mécanismes d'indexation qu'on met en place. On peut indexer des salaires et les protéger de l'inflation. On peut aussi indexer des rentes, des titres financiers et les protéger de l'inflation. Donc cette question de l'inflation, elle mérite aussi d'être posée démocratiquement et de ne pas s'abriter juste derrière la ruine du petit épargnant, comme si tout le monde serait lésé de la même façon vis-à-vis de l'inflation. Tout dépend des mécanismes politiques d'indexation. Bon, en tout cas, cette détention forcée des bons du Trésor, elle a été critiquée comme inflationniste, mais elle permettait en quelque sorte un levier d'action. Le Trésor était aussi à la manœuvre pour fixer les taux d'intérêt sur ces bons à court terme et il pouvait décider de ne pas trop appauvrir le secteur bancaire. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'essentiel du débat devrait être sur les moyens d'encadrer la finance de marché de manière structurelle. Pourquoi ? Puisque un des défauts des rachats de la BCE sur les marchés secondaires, c'est qu'on ne sait pas où va cet argent et qu'il alimente surtout des bulles spéculatives et le marché des actifs financiers. Il ne profite pas à tout le monde.
Merci.
Les gens qui proposent l'annulation, d'ailleurs, veulent aussi démocratiser l'allocation du crédit, parfois avec de l'hélicoptère monnaie ou des dispositifs de la sorte pour
que cette injection monétaire profite à tous. Pardon.
Voilà. Vous écoutez donc le temps du débat. Peut-on croire à l'annulation de la dette en compagnie de Benjamin Lemoine, que vous venez d'écouter, sociologue, de Baptiste Bridonneau et d'Agnès Benassi-Kéré. Tous les deux sont économistes. Téléphone, bien sûr, avec des injonctions qui ne sont plus de ce temps, puisque argent trop cher, ça n'est pas le cas. Dépense-toi, on ne peut pas vraiment se dépenser. Quant au prix de la vie, on sait que la vie a un prix depuis le début de cette crise de la Covid. Baptiste Bridonneau.
Oui, ce que dit Benjamin Lemoine, c'est qu'il faut trouver des moyens de financer l'État qui soit de plus en plus indépendant des marchés. En gros, le néolibéralisme...
C'est ce que vous pensez avec les 150 économistes qui
exactement,
ont
exactement. Et je vais montrer en quoi l'annulation de la dette est très très proche de cette manière de penser. En gros, le néolibéralisme, c'est quoi? C'est d'appliquer à l'État les lois du marché. Et c'est exactement ce que dit Benjamin Lemoine. Aujourd'hui, pour financer l'État, alors qu'il aurait la capacité de se financer lui-même, il est obligé de montrer la patte blanche au marché. Et ben, l'annulation de la dette, c'est exactement la même chose. Quand le bras droit de l'État, la Banque centrale, rachète de la dette de l'État, on nous dit surtout n'annulons pas ce contrat, n'annulons pas ce contrat. Et là, je crédite mon ami Gaëtan Lecoing qui m'a donné cette très bonne idée. C'est quoi cette idée-là? C'est que, en gros, la loi du marché est tellement importante qu'on ne veut absolument pas détruire ce contrat. Or, on est quand même avec une dette qui est littéralement absurde, puisque c'est une dette qu'on détient sur nous-mêmes. Donc en fait, on applique exactement à l'État la loi du marché. Non, surtout, n'annulons pas ce contrat, n'annulons pas ce contrat. L'annulation de la dette, c'est de mettre le politique au-dessus de la loi du marché. C'est de montrer qu'il y a une suprématie du politique contre la loi du marché. D'autant plus important, ce politique, que si on veut lutter contre les menaces à venir, le réchauffement climatique, etc., il va falloir montrer que le politique est au-dessus des lois du marché. On essaye de mettre de la dette publique partout. Dire que c'est de la dette publique alors que c'est une dette qu'on détient sur nous-mêmes, mais en réalité, c'est pas une dette. Donc ça, j'y reviendrai peut-être plus tard.
Agnès Benassi-Kéré.
Bah, écoutez, je trouve ça très bien de mettre le politique au-dessus du marché, mais on annule la dette que détient la BCE pour ne pas être dépendant de la BCE. Donc après, on veut pas non plus être dépendant du marché. Donc il faut pas non plus vendre de la dette au marché. La meilleure manière de le faire, entre parenthèses, c'est d'arrêter de faire du déficit, hein, parce que comme ça, on sera dépendant de personne. Je voudrais quand même mentionner que une énorme partie de la dette est détenue à l'extérieur de la France. Donc il faudrait la rapatrier en France et forcer les gens à la détenir en France avec des taux d'intérêt négatifs. Bon, c'est un programme qui est intéressant, mais qui va être compliqué. Qui va être quand même compliqué, parce que l'emprunt populaire, quand le taux d'intérêt est négatif, c'est un peu moins populaire. Donc, moi,
c'est une question. C'est que vous n'y croyez pas.
Et annuler, ça ne change absolument rien. Donc, on est face au marché. On n'a plus la BCE, peut-être, mais on est face au marché. Et on fait quoi? Et pour moi, c'est pas de concret du tout. C'est une sorte de rêve, et je pense que la meilleure manière. Il y a des pays qui sont très peu dépendants des marchés. L'Estonie, il y a très peu de dettes, et donc ils sont très indépendants. Et à partir du moment où on fait de la dette, on se met dans une situation forcément de dépendance. C'est évident.
C'est, enfin, ce que dit d'ailleurs Christine
si vous
Lagarde.
Appartement, vous prenez un emprunt bancaire et la banque a un pouvoir sur vous de vous faire payer et elle n'est pas contente si vous ne payez pas et vous pouvez dire que vous êtes dépendant, mais c'est vous qui êtes allé chercher la banque
et pour, ce que dit,
pour vous financer. Donc
ce que dit aussi Christine Lagarde, c'est qu'elle dit que si l'énergie dépensée à réclamer une annulation de la dette par la BCE a été consacrée à un débat sur l'utilisation de la dette, ce serait beaucoup plus utile, dites-vous, dit-elle. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi, Agnès Benassi-Kéré? C'est-à-dire que là, la discussion que nous avons vous semble inutile, vous semble dépassée, vous semble sans intérêt, Agnès Benassi-Kéré, parce qu'il vaudrait mieux réfléchir à la manière de dépenser la dette et de l'utiliser?
Mais absolument, absolument. Le vrai sujet, c'est ça. Le vrai sujet, c'est quels sont les investissements? Est-ce qu'ils sont une rentabilité suffisante pour qu'on puisse continuer à sortir de la crise et avoir une dette qui reste soutenable? Et c'est la croissance en sortie de crise. C'est le maintien du tissu productif en France. C'est la protection des ménages modestes. C'est tout ça, les sujets importants. Et en sortie de crise, ça va être de renouer avec une politique budgétaire qui serait à la fois durable et en même temps qui soit peut-être plus en ligne avec le cycle d'activité, hein, de manière à soutenir l'activité quand ça va mal, mais aussi que soit plus propice à remplir les caisses quand les choses vont bien. Hein. On sait que ça a fait défaut, ça, par le passé. Donc, et avoir une meilleure... On a énormément progressé depuis le début de la crise avec nos voisins européens. C'est pour ça qu'aussi, moi, ça me déprime de leur agiter le chiffon rouge de l'annulation, parce qu'on a énormément progressé. Enfin, l'Allemagne a accepté ce plan Nouvelle Génération Union Européenne qui est une forme de budget de budget de crise européen, une réponse coordonnée, des choses qu'on n'arrivait pas, on piétinait depuis 10 ans. Et là, ça y est, on a construit quelque chose. C'est pas complètement fini, mais on va encore progresser. Donc là, je trouve que c'est un débat qui est assez malvenu, parce que il ne peut que nous faire régresser. Enfin, nos voisins sont quand même un peu surpris. Hein. Je veux pas dire.
Il ne se tient pas qu'en France, ce débat.
Ils comprennent pas.
Baptiste Bridon.
C'est très français. C'est un peu en Espagne, mais bon, vous voyez, c'est des pays méditerranéens. Voilà, c'est. Ça nous classe dans les pays méditerranéens qui ont des problèmes budgétaires et donc ils vont chercher les autres pour mutualiser la dette et à l'annuler, etc. C'est un peu caricatural.
Bah oui, là ça l'est.
Voilà, je trouve que c'est un peu un rebrousse-poil par rapport aux grands progrès qu'on a fait en termes de coordination avec nos voisins européens.
Non, je pense que nous faire la
plus,
critique.
On a à côté le marché dont on a besoin. Et on est en train de lui dire que, parce que le marché, il va se dire, on est les suivants dans la liste, hein, dans l'annulation.
Je pense que nous faire la critique de ne pas dire où nous voulons dépenser l'argent, c'est fort de café. Hein. Le but est quand même, pour tous les signataires de la tribune, de trouver des moyens de financer la reconstruction écologique, hein, de financer la transition écologique. Quant au débat sur la dette, si, croyez-moi, il est nécessaire. La dette a été utilisée comme moyen d'asservissement pendant 10 années, d'austérité publique. Donc réfléchir à la dette publique.
Asservissement, c'est un terme.
C'est très fort. Bah oui, mais c'est très fort. Mais en même temps, quand vous baissez les dépenses publiques et que du coup on se retrouve avec des hôpitaux qui ne sont pas capables de faire face à des crises, quand vous avez des mouvements sociaux pas possibles parce que vous augmentez les impôts, faut se demander comment on gère notre dette. Alors voici ma vision de la chose.
Donc vous voulez annuler tous les ans, en fait. Vous voulez annuler tous les ans pour financer
Madame,
les
dépenses publiques. Madame, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Ma vision de la chose, c'est qu'on fait une erreur en économie, ce qu'on appelle un sophisme de composition. Effectivement, les États sont endettés, ils ont une dette à l'échelle microéconomique. Ça veut dire qu'il y a des gens il y a des créanciers qui prêtent à l'État. Effectivement, ces gens-là, il faut les rembourser. Par contre, quand on passe à l'échelle macroéconomique, dès que vous remboursez un créancier, vous réempruntez à gauche. Donc, autrement dit, votre quantité de monnaie qui vous permet de financer vos déficits publics, elle reste stable. Vous n'avez pas besoin de la faire baisser, vous pouvez même la faire augmenter. La seule raison pour laquelle il faudrait faire des excédents budgétaires, c'est parce que vous avez trop d'inflation, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc, en gros, vous vous retrouvez avec une réalité que vous n'avez pas à rembourser. La dette à l'échelle macroéconomique est une réalité qui n'a pas besoin d'être remboursée. Autrement dit, si c'est une réalité qui n'a pas besoin d'être remboursée autre que quand il y a de l'inflation, ça n'est pas une dette. Ça n'est pas une dette. Donc en fait, quand vous passez de l'échelle microéconomique à l'échelle macroéconomique, vous vous retrouvez d'une dette à quelque chose une réalité qui n'est plus une dette. C'est ce qu'on appelle en sociologie le holisme méthodologique, c'est-à-dire le tout a des propriétés distinctes de la somme de ses parties. En économie, c'est le no bridge de Keynes. Vous pouvez pas expliquer à l'échelle macro les choses à partir de l'échelle micro.
Qu'est-ce que c'est le no bridge?
Parce que personnellement, vous pouvez pas expliquer des phénomènes macroéconomiques, donc la dette publique dans son ensemble, à partir de ses composantes, à partir de tous les petits contrats de dette publique. Pourquoi ? Parce que les petits contrats, vous les remboursez, alors que la dette à l'échelle macroéconomique, vous la roulez, donc vous ne la remboursez jamais, donc ça n'est pas une dette. Donc elle n'a pas les mêmes propriétés en tant que tout qu'en tant que somme des parties. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir cette réflexion sur la dette, parce que justement, en fait, on se rend compte que potentiellement, la dette publique n'existe pas, et si elle n'existe pas, il faut l'annuler. Donc c'est vraiment une réflexion profonde sur la manière de faire de l'économie, et ensuite sur la dette de manière générale. En fait, peut-être que cette réalité qu'on met toujours en avant pour essayer de faire de l'austérité, peut-être qu'en fait, c'est une réalité... En fait, on continue à réfléchir dans l'univers. Voilà, exactement. Ouais, à réfléchir dans l'univers conceptuel de la dette. Et là, la proposition d'annulation, c'est justement de dire ce qui n'est pas une dette. Mais enfin, disons que c'est pas une dette pour éviter qu'on ait des gouvernements politiques qui, après, justifient de l'austérité pendant quelques années.
Il faudrait déjà faire comprendre à des gens comme moi qu'effectivement, ce à quoi ils ont cru était totalement faux.
On est là pour ça.
Et puis, également, j'imagine à tous les emprunteurs de la planète qui croient, eux, à la réalité de cette dette, très brièvement. Sur ce point, est-ce que vous voulez réagir, Benjamin Lemoine?
Oui, moi, disons que j'ai une vision plus matérielle de la dette. Hein. Je pense que elle lie bien un prêteur à un emprunteur, et effectivement, elle peut servir à asservir le débiteur. Et ce contrat, celui qu'il détient, il y tient et il peut s'en servir comme levier politique. Et je pense que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, le poids qu'a pris la finance dans nos sociétés. Et je pense que, pour répondre un peu à Agnès Benassi-Kerry, je pense qu'il serait possible aujourd'hui de construire un système de crédit dans lequel la puissance publique, les dispositifs de collecte publique du crédit pourraient revenir réinjecter de la pluralité dans un système qui est dominé par la banque privée et par l'investissement privé. Et je pense que oui, le citoyen pourrait adhérer à un système de collecte publique du crédit si il avait connaissance de la façon dont était utilisé ce crédit, les bénéfices de l'allocation de ce crédit, qu'il pouvait participer en quelque sorte à cette grande boucle macroéconomique dont parlait Baptiste Britonneau. Donc je pense que là où on s'accordera, c'est sur cette idée qu'il faut définanciariser l'économie et la société. Et la proposition d'annulation, elle est une parmi d'autres pour remettre au cœur de ces débats le rôle de la finance et avoir des définitions du coût non strictement financières. Parce que emprunter parfois à coût financier très peu cher à des créanciers étrangers, ça emporte un coût politique. Quand le Trésor y vend sa dette, il fait des promesses de politique publique et puis il peut promettre effectivement que l'inflation est un tabou massif, que la protection de cette épargne sera sanctuarisée. Il peut aussi promettre la compétitivité salariale et donc des salaires maintenus très bas. Donc effectivement, il n'y a rien de gratuit et d'indolore dans un contrat d'emprunt. Ouais, il y a des intérêts matériels très concrets.
Agnès Benassi-Kerry, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait convaincue par ce qui vient d'être avancé. Néanmoins, est-ce que vous pensez que ce débat est utile et on conclura sur ce que vous allez nous dire?
On peut pas dire que la dette n'est pas de la dette, même au niveau macroéconomique. La dette, effectivement, elle est roulée à condition que les marchés veulent bien vous rouler votre dette. C'est-à-dire que vous remboursez quand même la dette. Vous émettez une nouvelle dette pour rembourser l'ancienne dette. Mais encore faut-il qu'il y ait encore des gens pour accepter d'acheter cette nouvelle dette. Si c'est pas le cas, eh ben à ce moment-là, vous êtes obligé soit de vous mettre en défaut, et donc c'est les épargnants qui ne seront pas honorés, ou alors vous devez lever des impôts drastiquement, donc ou baisser les dépenses. Donc ça c'est quand même important à l'avoir en tête. Hein. On roule la dette à condition que les marchés soient toujours là pour l'acheter. Il y a des pays qui malheureusement ont vécu des épisodes complètement traumatiques où les marchés n'étaient plus là pour l'acheter. Alors l'annuler pour marquer le fait que c'est pas de la dette, bon ben très bien. Mais le jour d'après c'est quoi? Le jour d'après vous pouvez plus emprunter à personne. Donc votre transition énergétique vous pouvez pas la financer. Toutes les dépenses dont vous avez parlé, merveilleuses.
On arrive.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais on la finance comment? Parce qu'on ne peut plus emprunter. Vous avez annulé une fois. Vous croyez que les gens vont vous reprêter juste après l'annulation? C'est pas possible. Donc, vous êtes obligé de faire l'ajustement et l'austérité que vous exécrez. Et ben, c'est justement comme ça que vous l'aurez, parce que vous aurez annulé la dette et plus personne ne vous fera confiance.
Merci beaucoup Agnès Benassi-Kerry. Très brièvement, Baptiste Bridon, deux mots.
Quand vous avez retrouvé votre souveraineté monétaire, c'est-à-dire une banque centrale qui intervient, whatever it takes, madame, il devient possible de rouler ses contrats de dette publique sans problème.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. C'était le temps du débat. Bruno Barada, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Adèle Rosier, Jean-Frédéric, c'était avec nous à la technique, et Alexandre Zanarès à la réalisation.